pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est à présent Emmanuel Canto, tête de liste Ensemble pour Puteau, investi par La République En Marche pour les municipales à Puteau. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, première question, Emmanuel Canto, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter votre ville, Puteau?
Puteau, c'est une ville phare du département, enfin, puisqu'elle couvre une partie de la défense, 60% du périmètre de la défense est sur Puteau. C'est une ville moyenne en termes de population, puisqu'on est à 46 000 habitants. Par contre, elle a l'énorme avantage d'avoir des ressources fiscales énormes, 2,5 fois supérieures à la moyenne du département.
C'est une des villes les plus riches de France grâce à la présence de ces entreprises basées à la défense.
Essentiellement, oui, effectivement, vous avez raison de le dire. Un budget global de plus de 400 millions d'euros, c'est effectivement colossal. Et ça représente un potentiel fiscal par habitant qui est 2,5 fois supérieur à celui de la moyenne du département.
Il y a de quoi faire rêver les maires de l'Île-de-France, un budget de 400 millions d'euros.
Ben, beaucoup de maires, effectivement, pourraient s'interroger sur la manière dont on utilise à bon escient cette manne financière liée essentiellement, comme vous l'avez dit, aux ressources fiscales des entreprises installées sur...
C'est une ville où il fait bon vivre, Emmanuel Canto?
Alors, je le crois, en tout cas pour tout le monde, sauf pour les opposants politiques. Parce qu'effectivement, bon, c'est une ville propre, bien tenue, suréquipée au niveau des équipements. Par contre, une ville où le régime autoritaire installé par une dynastie familiale depuis plus de 50 ans est assez féroce. Et il vaut mieux, effectivement, ne pas être dans l'opposition. On a des exemples flagrants de discrimination, d'enfants qui ne partent pas en colonie de vacances, de refus de logement, de refus de salles, pour tous les opposants politiques.
On parlera tout à l'heure du bilan de la maire sortante, Emmanuel Canto. Vous êtes investi par La République En Marche, vous avez déjà été élu, vous connaissez aussi le fonctionnement de l'administration en raison de votre profession. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours personnel et politique?
Alors effectivement, je suis cadre territorial pour une grosse commune des Hauts-de-Seine, pour ne pas la citer, Rueil-Malmaison, où j'occupe le poste de directeur du patrimoine et des affaires foncières. Et j'ai eu la chance d'avoir un mandat magnifique et très formateur dans une ville proche d'ici, à Levallois-Perret, de 95 à 2001, dans l'équipe d'Olivier de Chazot. On avait réussi effectivement à une vraie alternance politique, puisqu'on avait... on avait sorti l'équipe Balkany, qui malheureusement est revenue, certes, en raison d'opposants politiques qui s'étaient manifestés. Et j'étais en charge du logement social. Donc c'est effectivement un poste très proche du terrain qui m'a formé et beaucoup enrichi.
Et vous êtes un marcheur issu de la droite?
Oui, on peut le définir comme ça, parce qu'effectivement j'ai fait campagne pour les primaires pour Alain Juppé. J'avais adhéré au MoDem au moment de sa création, j'avais pris un peu de recul, c'est vrai, et j'ai rejoint La République En Marche dès février 2017, donc effectivement je me suis engagé fermement et j'ai été élu animateur local et je suis très content de cette investiture qui est un vrai signe pour les marcheurs de longue date. Et je suis aussi content, pardon de les citer, mais des soutiens du MoDem, de l'Union des démocrates et des écologistes, d'Allons Enfants.
C'est une...
Et d'Agir, bien sûr,
c'est
pardon.
Une ville où il y a un espace politique potentiel pour La République En Marche. Aux européennes, La République En Marche a fait un bon score à Puteau.
La République En Marche a fait le meilleur score à Puteau aux européennes. On était à 30%. Ce qui confirmait d'ailleurs le score excellent qu'on avait fait aux législatives et aux présidentielles, la première force politique, bien loin derrière, enfin bien devant les Républicains qui n'étaient arrivés aux européennes qu'à 11%.
Alors vous nous avez parlé brièvement de la maire sortante de Puteau, vous avez parlé de dynastie politique puisque son père avait été élu avant elle. Quel est le bilan global de sa gestion de la ville? Tout n'est pas négatif.
C'est exact. Enfin, moi, si vous voulez, je crois qu'il faut, travailler en deux temps. La période de Charles Sicaldi-Reynaud, de 1969 à 2008, je pense qu'elle a été très, très enrichissante pour la ville, une ville qui s'est transformée. Enfin, quand on réfléchit à ce que le vieux plutôt est devenu. Beaucoup d'immeubles insalubres, en péril. Il y a eu une vraie volonté de rénovation, une vraie volonté d'amélioration du quotidien des habitants. C'était un maire très proche de sa population. On l'appelait le maire au calepin. Hein. Il circulait beaucoup dans les quartiers. Je pense que malheureusement, Madame Sicaldi a pas du tout la même approche. C'est pas un maire de la même trempe que son père. D'ailleurs, il y avait eu de forts désaccords entre eux.
Ils se sont opposés
férocement, ouais. Parce qu'il avait présenté une liste contre elle, je crois d'ailleurs à deux reprises. Bon, mais fondamentalement, il avait une vraie vision politique, il avait un vrai style, une vraie plume qui plaisait beaucoup. Et c'était sans doute cette proximité que Madame Sicaldi a dû oublier, parce qu'elle est assez loin du terrain maintenant. Je le regrette, comme beaucoup d'habitants. Je crois qu'elle elle est un peu déconnectée des vraies réalités. Du terrain, notamment des problématiques d'écologie et de renouveau démocratique que nous portons avec notre liste.
Il y a beaucoup de nouvelles constructions à Puteaux. C'est une ville dont la population augmente régulièrement. Est-ce que ça vous va, cette construction assez régulière à Puteaux?
Alors, cette bétonisation à outrance, moi je voudrais qu'on arrive à se calmer, parce que j'ai bien compris que l'objectif de l'équipe en place était d'atteindre les 50 000 habitants. Moi, je crois qu'il faut le faire dans la mesure, en respectant les équilibres habitat, bureau, et puis les espaces verts. Moi, je peux pas me résoudre à ce qu'on soit une commune à 6% d'espaces verts, alors que la moyenne du département de mémoire est à 30%. Je crois qu'il faut préserver l'âme de Puteaux Village. Et ça sera effectivement notre ligne directrice.
Préserver l'âme de Puteaux, cela signifie limiter la construction notamment de bâtiments avec de nombreux étages. Il y a des maisons, c'est une ville proche de Paris où il y a encore de très belles maisons. Vous pensez que ces maisons pourront être un jour détruites?
Il faut préserver au contraire cet habitat pavillonnaire, et ça, comptez sur moi pour le mettre clairement dans le PLU. Mais dans le PLU, on peut prévoir des règles plus contraignantes en termes de construction. On peut tout à fait imaginer d'imposer aux promoteurs la construction sur, je dirais, une partie de 50% de l'emprise foncière du terrain, pour préserver justement en cœur d'îlot des espaces verts de proximité. On peut tout à fait leur dire aussi que on favorisera la plantation d'arbres d'alignement dans les programmes immobiliers.
Alors c'est la grande mode aujourd'hui, la végétalisation des villes. Pour le coup, vous dites que Puteaux est une ville qui a beaucoup à faire par rapport à d'autres villes proches de Puteaux.
Ah oui, quand on voit Neuilly. Enfin, on a une chance terrible. Alors, c'est vrai qu'on bénéficie de l'île, et il faut d'ailleurs préserver son caractère sportif et de loisir. Il faudra pas toucher à l'île de Puteaux. Et ça, c'est un engagement fort qu'on prendra qu'on a pris d'ailleurs dans notre programme municipal. Mais je crois qu'il faut aller plus loin et favoriser autant que possible le moins de minéral et le plus de le retour du vert et du végétal.
Est-ce qu'il faut aussi intégrer la question de l'environnement dans la construction des prochains immeubles, puisque la ville, comme toute l'Île-de-France, a été confrontée à un pic de canicule l'été dernier?
Bah, je, dans la mesure du possible, végétaliser les toitures, terrasses, il faudra qu'on s'en occupe. Bien évidemment, je crois qu'il faut qu'on se lance dans une grande opération d'extension de notre opération programmée d'amélioration de l'habitat sur l'énergie, parce qu'on a encore de vieilles résidences des années 70 qui sont de vraies passoires énergétiques. Il faut qu'on étende notre OPA et les subventions qu'on versera aux propriétaires pour justement améliorer l'isolation thermique des logements.
Alors, vous ferez en sorte aussi que les repas dans les cantines scolaires soient bio. Est-ce qu'il faut aussi que les cuisiniers s'approvisionnent en produits locaux, des produits qui viennent de la région Île-de-France?
Ah, moi je suis adhérent de la MAP depuis tôt. Évidemment, je prône qu'il y ait dans nos marchés publics, notamment celui de la restauration scolaire, une clause de circuit court. Bon, quand on a dit ça, on va regarder d'autres pistes. Moi, j'ai en tête notre domaine de la Falaise, qui est malheureusement une propriété de Puteau qui est un peu éloignée, qui servait de centre aéré. C'est désaffecté maintenant puisqu'elle n'est plus aux normes pour accueillir les enfants. Je crois que c'est un endroit où on pourrait se poser la question d'une ferme communale pour voir si on peut travailler des produits locaux de proximité qui approvisionneraient nos écoles et nos restaurants.
En tant que maire, si vous êtes élu, vous serez en charge des écoles primaires et maternelles. La réussite éducative passe par quelles mesures concrètes?
Alors, le réseau puteolien de l'ordre de 20 écoles et groupes scolaires est de bon niveau. Enfin, il faut le dire. Hein,
vous êtes avantagé par rapport à certaines villes de banlieue qui n'ont pas forcément vos moyens.
Bien sûr, moi je. Alors qu'on travaille de manière plus, je dirais plus collaborative avec l'inspection d'académie sur la carte scolaire, sans doute, parce que j'ai en mémoire ce qui s'est passé à Lorieux au moment de l'ouverture de l'école des Bergères. Bon, il y a eu effectivement une menace de fermeture de classe qui était vraiment pas une bonne chose. Mais globalement, on a une infrastructure et des bâtiments de qualité, j'en veux pour preuve, qui sont quasiment tous accessibles aux enfants en situation de handicap.
Alors justement, vous parlez des enfants en situation de handicap. Vous voulez une ville solidaire et inclusive. Qu'est-ce que vous ferez pour les enfants handicapés qui ne peuvent pas aller à l'école faute d'accompagnement scolaire? Là, c'est pas une question de bâtiment, c'est une question de moyens humains.
Alors, il faut effectivement, moi je crois, comme le président Macron, que tous les enfants aient une place dans le système scolaire, y compris, bien sûr, s'ils sont en situation de handicap. Moi, c'est essentiellement sur la voirie que ça me choque, qu'on n'ait pas plutôt un plan d'accessibilité voirie aux espaces publics, le fameux PAV, qui est obligatoire, je crois, pour toutes les communes de plus de 500 habitants. Ça me choque beaucoup. Donc il y aura, dans les premières mesures que j'entends prendre, c'est de mettre en place un réseau de testeurs sur l'accessibilité des trottoirs, des équipements publics, pour que on s'assure de la parfaite transition et mobilité des uns et des autres.
Notamment aussi pour les personnes non-voyantes avec des feux qui leur permettent d'entendre si c'est un feu rouge ou un feu vert.
Absolument, absolument. Et je rajouterais que j'ai un puteolien qui m'a appelé récemment pour me signaler. On a plutôt un conservatoire de rayonnement régional, un bel équipement qui a été inauguré par Madame Le Maire il y a quelques années, mais qui est sous-utilisé. Et quand il s'est posé la question, puisque lui et son association a sollicité qu'il y ait une classe musicale réservée aux enfants autistes à l'intérieur de cet équipement, il a reçu une fin de non-recevoir de la ville et une absence totale de réponse. Moi, je lui ai dit clairement que ça fait partie des objectifs qu'on prendra et des engagements, de manière à ce que y compris les enfants de Suresnes ou de Courbevoie, autistes, puissent bénéficier de ces classes musicales.
Emmanuel Canto, l'an dernier, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État, a organisé le Grenelle contre les violences conjugales. Si vous êtes élu maire de Puteau, est-ce que vous prendrez des mesures spécifiques pour aider ces femmes victimes de violences?
Alors, vous avez raison de le dire, c'est une grande cause nationale que Madame Schiappa porte, et l'ensemble du gouvernement d'ailleurs. Il y a près de 200 000 femmes par an en France qui sont victimes de violences physiques ou sexuelles de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Moi, j'ai un groupe de travail qui a beaucoup travaillé là-dessus, et notamment sur l'égalité femmes-hommes, et on porte au sein du programme l'intention d'ouvrir une maison des solidarités pour accueillir non seulement les mères célibataires en danger, mais les femmes battues, et plus généralement, je dirais, les personnes discriminées aussi, je pense aux jeunes notamment, parce que j'avais été accueilli et reçu par le président du refuge. Je pense aussi aux jeunes pénalisés pour leur orientation sexuelle.
Alors, le secrétaire d'État, Gabriel Attal, qui est venu vous apporter son soutien la semaine dernière, accuse la maire sortante de vous mettre des bâtons dans les roues pour faire campagne. Vous qui avez l'habitude des campagnes électorales, en quoi cette campagne est-elle différente des précédentes ?
Alors, vous avez raison, c'est toujours l'adversaire le plus menaçant pour elle et pour le système clientéliste mis en place que sur lequel tombent les foudres de la maire sortante. Le harcèlement de la police municipale quand on installe un petit oriflamme sur le trottoir au moment de la distribution des tracts et je dirais est malheureusement généralisé, c'est triste. Le retard dans la délivrance des salles qui sont pourtant obligatoires en campagne électorale est pénalisant, mais toutes ces petites mesquineries antidémocratiques, effectivement, on y est habitué, malheureusement. Mais je suis très content que Gabriel Attal soit venu nous soutenir. D'abord parce que c'est un message fort pour la jeunesse, parce que vous savez que le pilier, les jeunes avec Macron qui me soutiennent depuis le début sont nombreux sur la liste. Ils sont près de 8 sur 43 colistiers. Je crois que c'est important qu'on donne un message à cette jeunesse qu'il mérite et qui porte de beaux projets. J'ai fait le choix de mettre en quatrième position une jeune femme qui a 28 ans. Et c'est un beau message que j'espère l'ensemble des jeunes qui veulent s'investir en politique comprendront.
Le fait que le président de la République ait été élu président à 40 ans, pour vous, ça change la donne en termes, je dirais, de responsabilité. On peut avoir des responsabilités beaucoup plus jeunes qu'avant.
C'est clair. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir été élu adjoint au maire à 28 ans dans ce département en 95. Donc, j'ai fait partie de cette génération qui a pu commencer en politique très tôt. C'est une chance. C'est une chance parce que on a une vision du clivage politique qu'il faut dépasser. On a l'intention de travailler plus dans l'intérêt, je dirais, des habitants.
Alors, Puteaux fait partie des villes où se loger coûte cher. Est-ce que vous allez encourager la construction de logements sociaux pour les familles les plus modestes ?
Alors, à Puteaux, on a un taux de logements sociaux qui est quand même important. On est encore à 28%. Donc, la construction de logements, ça sera essentiellement tourné sur les logements très sociaux. En revanche, je vais mettre en place un programme d'accession sociale à la propriété, notamment sur le modèle de ce qu'a fait Roy Malmaison, c'est-à-dire un dispositif complémentaire pour les primo-accédants, de manière à ce que il y ait un prêt à taux zéro, limité à, je dirais, à 30 000 euros, mais qui est déjà une somme importante, de manière à ce qu'ils puissent s'engager dans ces achats. Et très certainement, si on peut continuer sur certaines résidences HLM, la priorité donnée aux locataires pour l'accession de leur logement, je le poursuivrai.
Alors, être candidat avec l'étiquette La République En Marche après les Gilets jaunes en pleine crise sur les retraites, est-ce que c'est compliqué tout de même ? Alors, Puteaux, ça n'est pas une ville, on va dire, difficile. C'est une ville où le niveau de vie ne ressemble pas à d'autres villes. Pour autant, est-ce que c'est un handicap ?
Sur le terrain, je le ressens pas comme ça. Régulièrement, sur les marchés, au porte-à-porte, je me rends compte que les habitants, ils sont plus intéressés sur les problématiques locales, sur qu'est-ce qu'on propose, avec quelle équipe, qu'est-ce qu'on veut changer. C'est ça les vraies questions qu'on nous pose. Évidemment, parfois, on a quelques remarques sur la réforme des retraites qui est des préoccupations légitimes, en tout cas des inquiétudes qui peuvent s'entendre, mais globalement, C'est pas du tout un handicap pour moi, loin de là, et je ne cache pas ni mon étiquette ni mes soutiens politiques. Et je suis très content d'ailleurs hier d'avoir obtenu celui d'agir la droite constructive.
Dernière question, qu'est-ce qu'un bon maire selon vous et quelles qualités faut-il pour exercer un tel mandat ?
Ah, c'est une très bonne question. Moi, je dirais que un maire, ça doit être essentiellement trois qualités. D'abord, des qualités humaines, de proximité, d'écoute, d'être à la disposition de sa population sur le terrain. La deuxième, c'est effectivement cette capacité d'empathie pour comprendre les problèmes et essayer de trouver des solutions adaptées au quotidien de la population. Et je dirais que la troisième, c'est de porter avec son équipe une vraie vision, savoir où est-ce qu'on emmène plutôt pour les 6 et 12 années qui viennent.
Et merci Emmanuel Canto. Je rappelle que vous êtes tête de liste Ensemble pour Puteaux, investi notamment par La République En Marche pour les municipales à Puteaux. Bonsoir.
Merci à vous de m'avoir reçu. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.